bien, c'est la deuxième partie d'Onde Noire et toujours les romans qui ont attiré notre attention en cette fin d'année. Jacques, un habitué de notre émission. Enfin, ouais. Je ne parle pas de toi, évidemment, je parle de l'auteur dont tu vas parler.
Oui, l'auteur, c'est John Esbeu. Le roman s'appelle Soif. Il est paru à la Série Noire de Gallimard et il est traduit par Céline Roman-Monnier. Alors, en fait, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il a fallu plus de 3 ans à John Esbeu pour remettre en selle, disons, son flic Ariol, son flic préféré. Alors je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, sans dévoiler grand-chose quand même, que dans le dernier épisode qui s'appelait Police, fin 2014 en France, il avait laissé Ariol dans un vraiment très très sale état.
Mais de toute façon, Harry se dégrade de roman en roman.
Voilà, donc... On savait même pas, à la limite, s'il le reprendrait, mais si, 3 ans, donc il a refortifié. Et là, on le retrouve au début de son roman. Il est marié à Raquel. Raquel, c'est sa douce amie depuis quelques livres, depuis un certain temps. Oleg, son fils adoptif, donc c'est celui de Raquel. Il s'est débarrassé de ses addictions, entre autres à la picouse, et il veut devenir flic.
C'est radical.
C'est radical. Quant à Harry, lui, il est fatigué, on peut le comprendre, vu ce qu'il a subi. Et il a décidé de tout changer dans sa vie, et il est donc devenu prof. Enfin, prof à l'école de police, quand même. À Oslo. Le Jim Beam le démange toujours, mais il est quand même assez fort pour résister. Bref, Harry le cassé, Harry l'enquêteur choc, Harry l'alcoolo, Harry le junkie mène, désormais, une vie pépère dans sa belle maison sur les hauteurs de la capitale norvégienne, Oslo. Une vie pépère à laquelle il a quand même un tout petit peu de mal à se faire. Il s'ennuie presque, en fait. Il a l'impression de s'encrouter. Nesbeu compare dans une interview son flic à Keith Richards. Il dit qu'il est passé par tous les états possibles et il continue à faire du rock'n'roll. Enfin, Keith Richards. Ariol, lui, c'est pareil. Il est passé dans tous les états, mais il continue à faire flic, en fait. Même s'il est prof, à la première occasion... à l'apparition d'un meurtre rituel qui lui en rappelle un autre, un précédent dans son passé, un meurtrier qu'il n'avait pas réussi à arrêter, eh bien, il va rempiler. Il va diriger une équipe d'enquête parallèle à celle de son ancienne adjointe, Catherine, qui est devenue la chef. Et c'est parti pour 600 pages où Ariol va s'évertuer à découvrir celui que certains psychologues nomment déjà le vampiriste. Un adepte un peu spécial du vampirisme. Alors, je ne m'apesantis pas sur le vampirisme. Si vous lisez le livre, vous comprendrez tout. Ça fait la trame du roman, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. Alors, malgré des détours de Nesbeu par le cinéma, la série télé, les romans plus courts et plus noirs, très bien d'ailleurs, on en a parlé ici, Nesbeu n'a vraiment pas perdu la main. Il manipule le tueur en série, la brigade de flics, avec toujours autant de brio. Prévoyez, je vous préviens, des nuits blanches car le roman est difficile à lâcher. Malgré les désillusions, les fausses pistes, les horreurs, parce qu'il y en aura, c'est pas violent, mais il y a quand même quelques scènes un peu dures, et les morts, il y en aura beaucoup, enfin quelques-uns. Nesbeu ne va pas permettre à son Ariol préféré d'abandonner la traque, et son lecteur, lui, va s'accrocher aux pages. Il les tourne les unes après les autres, croyant aux 2/3 du roman. Bon, en même temps, il voit qu'il y en a quand même 200 pages derrière, donc il se doute bien qu'il va y avoir quelque chose. Et effectivement, Nesbeu sort de son clavier, de son giron, un rebondissement qui va relancer l'affaire pour repartir vers un nouveau psychopathe assoiffé de sang. Il parsème son récit d'anecdotes, alors j'en cite juste 2 qui m'ont marqué. Il parle d'un forgeron japonais à un moment, où il parle du chêne mitoyen entre 2 maisons. C'est une anecdote qui apporte pas vraiment grand-chose au récit, mais en fait, qui donne un petit peu de répit, qui brise le rythme, abaisse la tension, pour mieux repartir de plus belle, même pas au chapitre, au paragraphe suivant. De son passé de rocker, Nesbeu, outre le rythme, il ressort souvent, le rythme de son récit, lui, il ressort souvent de nombreuses références musicales, qui permettent de découvrir, voire de redécouvrir quelques perles, comme le Radio City du groupe Big Star, ça date des années 70, c'est pas récent. Ou aussi, toujours des années 70, le Dark Side of the Moon de Pink Floyd, qui là, et tout au long du roman, revient comme un fil rouge. Ben, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais si vous le lisez, vous comprendrez très bien. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller mettre le disque, le vinyle, le CD,
la cassette, il paraît que ça ressort.
La cassette ou la partie, le truc numérique dans votre iPod quelconque pour réécouter ce merveilleux disque de Pink Floyd. Vous remarquerez que c'est assez rare qu'on parle d'un thriller dans de noir. Et quitte à en conseiller un, de temps en temps, autant prendre un bon, et là c'est un très bon. Avec Joe Nesbø, on ne s'ennuie jamais. Il rajoute à son savoir-faire un peu, disons, technique, une très belle qualité d'écriture. Alors si par hasard vous n'êtes pas encore familier avec Harry Hall, avant de vous lancer dans Soif, peut-être plongez-vous dans la collection Folio Policier où tous les précédents sont réédités. Donc je vous conseille le premier, L'Homme Chauve-Souris, qui permet de découvrir le personnage, puis Rouge Gorge, qui est un des meilleurs. Vous pourrez lire ensuite aussi Le Bonhomme de Neige, dont le film sort incessamment, même il est sorti ce mercredi. Et ensuite, vous pourrez étancher votre soif avec tous les autres, et donc avec celui-là, qui s'appelle Soif. Remarquons que Nesbø a osé appeler Soif un roman mettant en scène un ancien alcoolique, ce qui est quand même un peu d'humour noir.
Ceci dit, comme il ne boit plus, voilà. C'est peut-être aussi...
Comme on dit au tennis, à la télé, Harry Hall a fait un retour gagnant.
Voilà, donc c'était le dernier roman de Joe Nesbø, Un gros pavé. Ben moi, je vais vous parler d'un petit bouquin. Alors, je crois qu'il fait moins de 200 pages, je vais vérifier. Oui, 172 pages. Dans notre dernière émission, nous nous étions entretenus avec Jackie Schwartzman pour son livre « Demain, c'est loin » aux éditions du Seuil. Et ce roman nous présentait sa vision de la banlieue, une vision particulière, une banlieue autour de Lyon, d'une manière originale et pour tout dire complètement décapante. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre roman, dont un des thèmes est la banlieue aussi, et sa cohorte de trafic, sous un ton tout aussi original. Ici, on est à la banlieue parisienne, on est dans la banlieue parisienne, et le livre dont je vais vous parler s'appelle « Enfants de la meute », son auteur en est Jérémy Bouquin. Ce roman est sorti aux éditions du Rouergue, dans la collection Rouergue Noir. Point de vue original, disais-je, puisque toute la cohorte de losers, de trafiquants, de caïds, de flics pourris, qui sortent donc de la banlieue, l'auteur va les exporter, si on peut dire, dans le coin le plus paumé de la Cambrousse, un lieu dit La Meute, situé dans le Jura. Et encore, la majeure partie de l'action, c'est un hameau isolé, enfin une ferme isolée de ce lieu dit complètement paumé. Citons l'intrigue, Yanis, un gamin, c'est le pivot du drame qui va se dérouler sous nos yeux. Il vient d'être enlevé par Gary, qui pense le cacher chez le grand-père, le vieux. Pas un type très sympathique d'ailleurs, on ne peut pas vraiment l'appeler papy, pourtant il l'appelle papy. Papy n'aime pas les banlieues, il n'aime pas les arabes, les bics. Papy c'est un salopard de réac, un facho notoire, genre le papy fait de la résistance. Ça c'est Gary qui parle. Yanis, le gamin, c'est le fils du caïd du coin, Joe, qui doit s'évader de tôle et qui veut évidemment récupérer son gamin. Depuis qu'il est en prison, il a été confié à sa mère. La mère, Marie, elle va vouloir retrouver son gamin. Et pour cela, elle demande au propre frère de Gary, c'est le côté blanc ou noir, on ne sait pas vraiment puisque c'est un flic complètement pourri, mais en tout cas, elle demande à ce mec de pister les fuyards. En gros, les pions sont placés sur un échiquier où à chaque fois que l'on pense avancer d'une case, on retourne à celle de départ. L'enfance, la famille, le passé. J'ai parlé au début de cette chronique d'un thème qui était les zonards d'une cité. Mais avant tout, c'est plutôt les meurtrissures de l'enfance qui sont évoquées ici. Entre autres aussi les violences faites aux femmes, sujet ô combien d'actualité. Et finalement, les ordures sont partout. Souvent impunis, ceux qui avilissent à jamais leurs proches. Ce roman, c'est un roman qui est construit en deux parties. La première est particulièrement réussie, celle consacrée à Gary. J'ai quelques petites réserves pour la deuxième, sur l'autre frangin, quand il débarque dans le lieu dit La Meute. Un peu trop de violence, même si l'on comprend le propos. Les enfants de La Meute, c'est finalement juste les saloperies de la vie. Qui, un jour, parce que l'on se retrouve face à face, parce que ça se transforme en duel familial, fratricide ou paternel, ça va vous sauter à la figure. Et ça, c'est forcément violent, très violent. Donc je rappelle, le roman s'appelle Les enfants de la meute. Enfin non, pardon, précisons. Enfants de la meute.
Au pluriel, enfants.
Enfants de la meute au pluriel. L'auteur en est Jérémy Bouquin, aux éditions du Rouergue, dans la collection Rouergue Noir. Un petit peu de musique maintenant.
Un petit peu de musique, sans aucun rapport avec ce qui précède et ce qui va suivre. Juste parce que c'est un excellent disque qui vient de sortir. Et le groupe s'appelle The Sideshow Tragedy. C'est un duo d'Austin, au Texas. Alors c'est une guitare résonateur, vous savez, le National Steel, là, ces super belles guitares qui ont un son très métallique, et le chanteur. Et de l'autre côté, un percussionniste. Il y a parfois aussi, selon les morceaux, un saxophone ou un Hammond B3 pour adoucir tout ça. Leur musique évoque aussi bien le vieux blues roots que les Stones ou Lou Reed, ou plus près de nous, les White Stripes. Bref, que du bon, du très bon. On écoute Afraid to Fall. L'album lui s'appelle The View from Nowhere. Après Jonas Jérémy Bouquin, on va complètement changer de genre avec un roman écrit par un Lituanien, Jaroslav Melnik, un roman que l'on pourrait classer aussi bien dans la science-fiction que dans le roman noir. Il s'appelle Espace lointain, au singulier, Espace lointain. Il est traduit par Margarita Barakaositae Leborgne aux éditions Agulo. Le roman se passe dans une cité, mégapolis, dans un futur indéterminé. À mégapolis, tout le monde est aveugle. Le verbe « voir » n'est même plus dans le dictionnaire. Mais pire, les mots « rire », « joie », « beauté », « liberté », comme d'autres, n'ont plus cours non plus. On ne trouve leur existence que dans un vieil opuscule, le dictionnaire des archaïsmes. La vision est remplacée par une série de capteurs électro-acoustiques qui permettent les déplacements. Et pourtant, tout le monde vit bien, semble-t-il, dans un univers relativement aseptisé. Mais un jour, Gabre Silk, un jeune et brillant étudiant, éprouve d'étranges sensations avec ses yeux. Il ne peut vraiment les définir, il pense à de simples hallucinations. Mais le ministère du contrôle lui diagnostique une psychose de l'espace lointain. En effet, quand on ne voit pas, il n'y a pas de lointain, seul l'espace mitoyen existe. Gabre, lui, il voit tout simplement. Il voit la mer, il voit les oiseaux, il voit le ciel, mais il voit aussi l'état de laideur absolue du monde dans lequel il vit. Une immense carcasse d'acier sur plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres de large, enfin centaines de mètres, d'acier et de câbles dans laquelle, enfin de laquelle on ne peut s'échapper. Il va rencontrer la résistance, des rebelles ou terroristes selon le point de vue. Ils sont d'anciens voyants que l'union gouvernementale a rendu de nouveau aveugles. Il va rencontrer aussi plus tard la minorité dirigeante, en fait ceux qui voient, dont il fait désormais partie. Que choisira-t-il, finalement ? Informer ses ex-semblables de leur sort, de leur état de soumission, lutter par le terrorisme ou la rébellion pour détruire ce monde factice et fasciste, il faut bien le dire, ou bien se couler tranquillement dans sa nouvelle vie ensoleillée. Et oui, il peut voir le soleil, le ciel. L'auteur lituanien nous plonge au cœur d'un roman parfaitement stylé, avec des rythmes asynchrones. Il alterne le récit pur avec des extraits de journaux intimes, des coupures de presse, des passages d'un antique recueil de poésie, ou encore des émissions de radio, et oui, il n'y a pas d'émission de télé puisqu'on ne voit pas, et, ou de vieux textes interdits, des textes en braille, que l'on peut lire donc avec les doigts, des textes qui permettent de mieux nous immerger dans cette dans la réalité de cette mégapole de fiction, encore que. Une écriture totalement maîtrisée au service d'une dystopie malicieuse qui interroge le lecteur jusqu'à la dernière page. Jaroslav Melnik se garde bien de prendre parti. Il nous alerte néanmoins. La démocratie n'est plus ce qu'elle était. Lituanien, il a aussi vécu en Ukraine. Ses parents ont été déportés au Goulag. Il est donc très sensibilisé, disons, aux dérives totalitaires. Abandonner sa liberté en échange de plus de sécurité, de plus de tranquillité, c'est pas forcément une solution. Il faut se méfier. Son roman n'est pas une thèse, cependant. Mais la réalité qu'il décrit est, sous bien des aspects, pas si éloignée de notre 21e siècle, ou du moins de ce qui arrive. Il nous faudra donc garder les yeux grands ouverts. Le roman, c'était « Espace lointain » de Jaroslav Melnik aux éditions Angulot, à recommander absolument. Et nous allons donc nous quitter en vous souhaitant une très bonne semaine et chacun dans son coin avec un bouquin ou plusieurs si l'envie vous en dit. À très bientôt.